L'un de vos saltimbanques, humoriste et ex-animateur télé préféré qui vous rend visite dans France Bleu Soir pour bien terminer la journée. Vous allez en passer un bon moment avec Patrick Sébastien pour son spectacle Avant que j'oublie, actuellement en tournée dans toute la France. Soyez les bienvenus sur France Bleu. Ravi de vous accompagner pour ce début de soirée qui démarre avec le journal de Frédéric Dorel. Bonsoir.
Bonsoir Arnold, bonsoir à tous.
À 111 ans, elle réalise le rêve de sa vie.
Visiter le Mont Saint-Michel. Les Normands n'ont pas hésité. Maryse n'est pas une centenaire lambda. C'est la doyenne des Alpes-Maritimes. Christophe Castaner face aux députés et aux sénateurs. Le ministre de l'Intérieur apparaît de plus en plus fragilisé. Nous serons en direct avec Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication politique. À Marseille, la maman de Marie Bélène, morte poignardée dimanche, appelle toutes les victimes de violences à construire plutôt qu'à détruire. Le cardinal Barbarin se met en retrait mais reste archevêque de Lyon. C'est sa décision après que le pape François ait refusé sa démission. Demain, c'est le 20 mars, jour officiel du printemps. À Poitiers, certains n'ont pas attendu, vous l'entendrez, pour le fêter. Et puis votre invité, Arnold, c'est Patrick Sébastien.
Exactement,
ce soir.
Patrick qui bourgeonne également. Hein.
Je bourgeonne aussi. Ah bah, ouais.
Il bourgeonne.
Qu'est-ce que ça me fait plaisir, il y a l'heure d'été qui va arriver.
Et voilà.
J'espère qu'on va la garder.
Et il a hâte de vous le présenter, ce spectacle, avant que j'oublie ce que je n'ai jamais pu dire à la télé.
C'est marrant parce que j'ai commencé à le faire avant d'être viré de la télé.
Ouais. Ah bah voilà. Bah donc du coup, il va y en avoir des choses à dire juste après le journal jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus.
France Bleu Soir, Arnold Derek, Frédéric Dorel.
Mais avant de retrouver Patrick Sébastien dans un quart d'heure, on part tout de suite au Mont Saint-Michel. Oui. Frédéric, où une centenaire a pu réaliser son rêve aujourd'hui.
À 111 ans, Maryse a visité le mont dont elle rêvait depuis si longtemps. Il faut dire que Maryse n'est pas n'importe qui, c'est la doyenne des Alpes-Maritimes. Il a suffi d'une vidéo sur internet le mois dernier pour attendrir les autorités normandes. Pierre Coquelin.
Oui, d'un rocher à un autre, Maryse a quitté Aize et les abords de Monaco pour réaliser son rêve à près de 1000 km de là, voir la merveille, le Mont Saint-Michel.
Et parce qu'il est unique dans le monde, alors il fallait que je le voie avant de mourir. Je suis vraiment touchée. Je n'ai pas été déçue d'après les photos. Formidable.
C'est un peu Noël pour cette jeune fille de 111 ans qui a ce qu'on peut appeler le sens de la répartie. À ses côtés, Catherine, sa voisine et amie.
Là, elle a sa tension qui est remontée à 12. C'est une vraie jeune fille. Elle est très heureuse. Ça lui plaît d'être le numéro 1.
Et vous étonne au quotidien ?
Elle a toujours un projet, toujours un truc en cours. Une recette à faire, un cadeau à donner à quelqu'un. Elle est comme ça.
Donc quand tu passes sous le Porsche, là, tu dois faire un vœu.
Sans hein. Le dire.
Tu dois pas le dire, tu le gardes dans ta tête.
Pour le président du conseil départemental, Marc Lefebvre, Maryse est devenue une ambassadrice de la Manche.
C'est important de l'accueillir et puis de permettre de réaliser son rêve et puis de voir aussi la marée et la mer qui s'en va. C'est vrai que pour des Méditerranéens, c'est pas forcément quelque chose de tout à fait naturel. Pour nous, ça fait partie de notre paysage au quotidien.
Et après les plus beaux panoramas de la baie, aujourd'hui, Maryse va visiter demain l'abbaye et déjeuner à l'auberge de la mère Poulard.
Ah, les omelettes de la mère Poulard.
Oui, pas forcément donné, mais le rêve n'a pas de prix.
Pierre Coquelin au Mont Saint-Michel, France Bleu Cotentin. Et les photos de la visite sont sur notre site internet francebleu.fr.
Allez, l'actualité politique à présent, c'est beaucoup moins tendre. Hein. Députés et sénateurs n'ont pas épargné Christophe Castaner aujourd'hui.
Lors des questions au gouvernement, d'abord, les oppositions ont demandé dans un climat houleux des comptes sur les dysfonctionnements des derniers samedis. Et c'est Édouard Philippe qui a défendu son ministre de l'Intérieur, Nicolas Ballut.
On a vu un Premier ministre dans un premier temps un peu fébrile, parlant beaucoup plus rapidement qu'à l'accoutumée. Et l'on a également plus entendu Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès de Christophe Castaner, signe que c'est bien le ministre de l'Intérieur qui est dans la tourmente. Des fusibles ont sauté, mais les vrais responsables, c'est vous, lance le républicain Éric Diard. En face, et bien souvent dans le brouhaha un petit peu surjoué de l'opposition, le gouvernement tente de dérouler un message. Si ça n'a pas marché samedi, c'est parce que les consignes ont été mal appliquées. Vous pouvez compter sur nous samedi prochain. Le souci pour le gouvernement, c'est que son ministre de l'Intérieur est peut-être censé au moins être au courant des principales consignes dans ce genre de situation. Christophe Castaner ne peut donc que rester dans ses petits souliers en espérant qu'il ne se passera rien samedi, pas question de démissionner. Et la dernière fois qu'un ministre de l'Intérieur est parti, Emmanuel Macron avait d'ailleurs eu bien du mal à le remplacer.
Merci Nicolas Ballut. Au Sénat, Christophe Castaner a défendu son bilan. Nous devons faire front, dit-il, nous devons faire face et faire condamner les violences. Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de la communication politique. Oui, est-ce que vous nous entendez bien ?
Oui, je vous entends.
Bon, donc vous êtes spécialiste de la communication politique. Est-ce que Christophe Castaner va réussir à se maintenir au ministère de l'Intérieur ? Il paraît fragilisé là. Hein ?
Il a été fragilisé dès le départ. En réalité, quelques semaines à peine après sa nomination, il avait les premières grosses émeutes. Hein, c'était les émeutes du 1er décembre sur les Champs-Élysées ont eu lieu. Et sa légitimité a été quasi immédiatement remise en cause. On sait qu'il a été choisi parce que c'est un proche du président, mais il n'est jamais vraiment entré dans les habits du premier flic de France.
Et puis alors là, donc ça fait 4 mois que ça dure et c'est de pire en pire.
Oui, et la presse aujourd'hui, l'opinion s'interroge, est-ce qu'il s'agit d'une impuissance, c'est-à-dire est-ce que vraiment on ne parvient pas à rétablir l'ordre public sur les Champs-Élysées, qui sont pris pour cible de manière de plus en plus violente, ou est-ce qu'il s'agit d'une incompétence? On entend les deux mots, hein, c'est impuissance ou incompétence. C'est très violent à l'égard du ministre de l'Intérieur, qui par ailleurs a une affaire qui tombe mal, hein, qui est sa sortie en boîte de nuit, un soir où les forces de l'ordre étaient par ailleurs très mobilisées, donc il y a une vraie fragilité. Après, on sait qu'Emmanuel Macron n'aime pas désavouer ses proches, d'une manière générale.
Oui, c'est ça.
Et encore moins sous la pression.
Et effectivement, vous pouvez étendre cette fragilité à Emmanuel Macron parce que Christophe Castaner, c'est un homme du président.
Oui, c'est l'un des derniers grognards qui entoure Emmanuel Macron, sachant que beaucoup de membres de son cabinet sont partis, notamment suite à l'affaire Benalla. Donc il y a une forme de vide qui se crée autour de lui, qu'il entretient aussi. On sait qu'il est très solitaire et qu'il aime bien décider seul. Le problème, c'est que ces gens qui partent ou qui sont affaiblis, finalement, finissent effectivement, comme vous le dites, par l'affaiblir en retour. Et c'est une spirale dont il a du mal à sortir.
Il est surnommé rente-en-plan, hein, même pour sa loyauté au chef de l'État. C'est l'histoire d'un clan qui est arrivé au pouvoir et dont les membres se prennent un peu pour des cadors.
Oui, c'est l'histoire d'un clan qui est arrivé au pouvoir très vite, sans beaucoup d'expérience politique, avec cette croyance qu'ils allaient pouvoir appliquer leur programme de manière radicale, rapide, et que le pays allait suivre, finalement, même s'il fallait passer un petit peu par la force, et qui s'est pris le mur des réalités en face. La réalité, c'est que la société française, elle n'est pas au rythme que souhaiterait qu'elle soit, elle n'est pas forcément avec les mêmes priorités en tête. Impose la limitation sur les 80 km/h en zone rurale, ça ne passe pas. Quand on supprime l'ISF, ça crée un traumatisme, même si c'était sans doute inspiré par des bonnes intentions. Et c'est tout ça crée au fond une accumulation de choses qui finit par créer un mur entre les dirigeants et le peuple français.
Et par créer un doute entre le peuple français et le gouvernement. Merci Philippe Moreau-Chevrolet, patron de MCBG, agence de conseil en communication. Très bonne soirée à vous.
Merci, au revoir.
Merci monsieur. Pouvoir d'achat et services publics, plus de 130 000 personnes ont manifesté aujourd'hui un peu partout en France.
C'est le chiffre du ministère de l'Intérieur. La CGT avance, elle, 350 000 manifestants pour cette journée d'action qui voulait montrer que les syndicats sont toujours là.
Et puis Éric Drouet, l'une des figures du mouvement Gilets jaunes, a vu sa voiture vandalisée cette nuit.
Taguée en jaune, comme sa maison à Melun en Seine-et-Marne, et deux pneus crevés. La femme du chauffeur routier a porté plainte.
19h08 pour la suite du journal. Journal de Frédéric Dorel, nous irons au Vatican. Le pape François accorde un répit au cardinal Barbarin en refusant sa démission, mais l'archevêque de Lyon décide de se mettre en retrait, tandis qu'il attend son procès en appel. Le printemps sera officiellement là demain, par quelques nuages sur le nord. La météo est de saison en plus.
Ouais,
nous
ça.
Irons à Poitiers pour le constater, mais d'abord, Frédéric, le cri d'une mère pour mettre fin au cercle vicieux de la violence.
C'est la maman de Marie Bélène, la jeune femme tuée dimanche à Marseille d'un coup de couteau. Un hommage a été rendu aujourd'hui à sa fille, son diamant, comme elle dit.
Ça me paraît important de m'adresser à ceux qui se font agresser et de leur dire que ce sont des diamants de la construction qui sont tellement brillants, tellement étincelants, ils éblouissent par leur beauté. Et donc, m'adresser à ces gens qui se font agresser et leur dire oui, votre diamant, il est à 1000 morceaux. Mais construisez autre chose, construisez, ne détruisez pas, ne laissez pas vaincre ceux qui détruisent. Construisez, c'est important.
Le cri déchirant de la maman de Marie Bélène, l'étudiante morte poignardée dimanche à Marseille.
À Paris, à présent, le rappeur Nick Conrad va faire appel.
Il vient d'être condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis pour son titre pendait les Blancs, qui l'a sorti de l'anonymat.
On file à Rome maintenant. Le pape refuse la démission du cardinal Barbarin.
Et c'est l'archevêque de Lyon qui l'annonce lui-même. Monseigneur Barbarin explique que François le présume innocent d'abord et avant tout. Information confirmée par le Vatican. Alessandro Gisotti est son porte-parole.
Je peux confirmer que le Saint-Père n'a pas accepté la démission présentée par le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. Conscient cependant des difficultés que connaît actuellement l'archidiocèse, le Saint-Père a laissé le cardinal Barbarin libre de prendre la décision la plus appropriée pour son diocèse. Le cardinal Barbarin a donc décidé de se mettre en retrait pour quelque temps et de demander au père Yves Bonmartin, vicaire général, de prendre la conduite du diocèse. Le Saint-Siège tient à redire sa proximité avec les victimes d'abus, avec les fidèles de Lyon et avec toute l'Église de France qui vivent des heures douloureuses.
Le porte-parole du Vatican, Alessandro Gisotti, Monseigneur Barbarin, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels du père Prénat, reste donc archevêque de Lyon en attendant son procès en appel.
Des militants anti-viande sont jugés en ce moment à Lille.
Ils sont 4, un homme et 3 femmes accusés d'avoir vandalisé une quinzaine de boucheries. À l'audience, ils font amende honorable.
C'est bien Georges Courtois qui est mort dans l'incendie de son appartement samedi à Quimperlé.
Le corps retrouvé a été identifié. Georges Courtois avait défrayé la chronique, souvenez-vous, en 1985. Il l'avait pris en otage toute une cour d'assises à Nantes.
Des milliers d'étudiants, rejoints par des professionnels de santé, ont manifesté aujourd'hui en Algérie.
Toujours pour réclamer le départ du président Bouteflika, lequel a répété hier encore qu'il ne voulait pas partir.
À 19h11, on passe à la bonne nouvelle de la journée. Le printemps arrive.
Ce sera demain officiellement, mais déjà on le voit, chaque matin il y a plus de lumière et un peu plus le soir aussi. Les arbres bourgeonnent et comme les plantes et les animaux, on sent tous un peu ragaillardis. Jules Brélaz l'a vérifié à Poitiers.
Il y a des indices qui ne trompent pas. D'abord les oiseaux qui chantent et puis Marinette qui a mis son plus beau foulard à petits pois de toutes les couleurs. Aucun doute, le printemps est bien là.
C'est une saison où tout refleurit. Très très sympa. Moi tout m'égaye, les chants des oiseaux, les fleurs, le ciel bleu et puis le soleil.
La nature, les animaux.
Magali, elle promène son petit en poussette.
Bonjour. Il est content, on les emmène au parc les petits-enfants, alors comme ça ils sont contents.
Dis bonjour.
Bonjour.
Il y a de la joie.
Celui qui chante là, c'est Henri.
Bonjour mesdemoiselles, il y a de la joie.
Sa demoiselle à lui, Nicole, lui envoie un baiser, saison des amours oblige.
Tiens, ça me rappelle ton jeune temps.
Ah oui, ça c'est vrai, ça me rappelle mon jeune temps. Bah oui, là, c'était terrible. Ah oui, oui, oui. L'on bourgeonnait facilement, la température montait.
Et elle monte encore au printemps avec James et Odile.
C'est que du bonheur, et on se le dit, on nage dans le bonheur. C'est tous les jours que je lui déclare ma flamme, et évidemment, avec ce 20 mars, je lui déclare, je t'aime mon amour. D'ailleurs, vous avez 2 témoins qui peuvent confirmer l'amour que l'on a l'un vers l'autre.
Les 2 témoins, des copains, Bénédicte et Xavier.
C'est extraordinaire, ils font comme le brame du cerf. Toujours en train d'animer la rue, de crier tout ça dans leur chambre, c'est épouvantable, on peut pas dormir.
Les hirondelles sont là, il y a de la joie partout, il y a de la joie partout.
La bonne humeur de James, Odile, Bénédicte et Xavier, les nouveaux amis de Jules Brélaz, France Bleu Poitou.
Un autre prénom, Martine. Mmh. Vous vous souvenez de Martine à la mer, Martine en avion. Oui. Eh bien, les premières éditions vont être mises aux enchères.
Et leur succès a été tel que les prix pourraient monter jusqu'à 7000 euros pour certaines couvertures. Martine, prénom courant en 1950, s'appelait Martina en Italie et Debbie aux États-Unis.
Voilà, ils peuvent rien faire comme tout le monde, les Américains. Et puis, un festival Michel Legrand devrait bientôt voir le jour.
C'est son épouse, Macha Merrill, qui a ce projet. Ce festival serait dédié aux comédies musicales et aux musiques de films que son compositeur de mari a écrites.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva, travailla vaillamment.
Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites.
Nous sommes toutes deux nées de pères inconnus, cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou.
Et ça, Frédéric Dorel, c'est Michel Legrand ?
C'est ça, c'est Michel Legrand.
C'est pas vrai.
Non, mais j'attendais le... le point de beauté. Voilà. Le point de beauté. Je trouve ce moment parfait génial. Mais enfin bref. Donc voilà, c'était Les Demoiselles de Rochefort en 1967.
Ah ben c'est formidable. Merci beaucoup, Frédéric Dorel. Hein, oui, ça fait du bien.
Tu sais, je les ai eus dans le cabaret tous les deux, Macha et Michel.
Et Michel Legrand, ouais.
L'amour, la beauté de ces deux personnes, l'un avec l'autre, c'était quelque chose.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai.
Beau.
C'est un amour qui continue, à mon avis.
C'était beau, tu peux pas savoir.
Je m'en doute. Je m'en doute quelque part. Vous l'avez entendu, Patrick Sébastien est avec vous dans France Bleu Soir. On se retrouve juste après ce point météo, à tout de suite.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.
Des brumes au lever du jour sur les Hauts-de-France, la Somme et l'Île-de-France. Quelques bancs nuageux à l'ouest sur le littoral et en Corse du Sud. Hormis cela, très belle matinée qui s'annonce demain. Ces nuages vont persister dans l'après-midi, surtout sur les Hauts-de-France, mais le ciel va être dégagé sur tout le reste du pays, quoiqu'un peu voilé. En Corse du Sud, vous aurez d'ailleurs 15 degrés à Bonifacio, Toulouse, Lyon et au Mans. Il y a 17 degrés à Nice tout de même et un bon 19 degrés, c'est pour Menton.
France Info et France Bleu, partenaires médias officiels de l'équipe de France féminine de handball. Championne du monde et tout juste championne d'Europe, les tricolores vous donnent rendez-vous à l'occasion de la dernière étape de la Golden League à Clermont-Ferrand et Boulazac-Île-Manoir les 21, 23 et 24 mars prochains. Le collectif d'Olivier Krumbholz y affrontera la Norvège, la Roumanie et le Danemark. Venez partager ces moments exceptionnels avec Siraba Dembélé Pavlovic et ses coéquipières. Toutes les informations sur ffhandball.org.
France Bleu Soir. Arnold Derek.
Très heureux de poursuivre cette soirée en votre compagnie. J'espère que tout va bien, votre journée s'est bien passée. On va essayer de faire en sorte que la soirée en soit de même. Et je pense qu'on est bien parti avec notre invité Patrick
Sébastien.
Oui,
en tout cas, moi je suis très heureux d'être ici.
Eh ben, on est toujours ravis de vous accueillir, Patrick, parce que vous avez le franc-parler. Hein. On vous connaît pour ça.
Ça coûte cher,
Ça coûte cher, tiens.
Ça coûte cher.
Ça coûte cher. Bah, évidemment.
Mais c'est bien, c'est bien. Puis ouais, il faut pas changer. Tu sais, il y a la dernière émission, enfin la dernière. J'ai enregistré un cabaret qui va passer au mois de mai. Mais la vraie dernière émission va passer le 20 avril, les années bonheur. Et j'ai terminé l'émission en disant que justement, j'étais très fier d'avoir résisté pendant tout ce temps-là à la bien-pensance et au politiquement correct. Et j'ai fini avec les derniers vers de Cyrano de Bergerac.
Ah bon.
Pour rester culturel.
Ah bah voilà. Ça va être un beau moment d'émotion. Donc le 20 avril,
ça sera donc la dernière des années bonheur. La dernière pour moi, parce que c'était la dernière où j'étais dans les studios au bout de 35 ans.
Ouais. Mais c'est pas la fin de Patrick Sébastien, parce que là on va vous trouver
peut-être en télé, que pour l'instant j'ai pas de proposition et pas non plus d'envie particulière.
Pour le moment, mais ça peut peut-être revenir.
Mais
on
j'ai
vous
surtout
souhaite.
Envie de. Ah, tu sais, je suis pris entre la frustration de plus faire ce que j'aime à la télé pour les gens, surtout parce qu'il y avait quand même des millions de gens qui continuent à me suivre et que la décision a été prise par trois personnes contre l'avis de plusieurs millions. Et puis le soulagement de pouvoir être libre.
Eh ben, il est libre, Patrick Sébastien. Vous allez vous en rendre compte jusqu'à 20h et au-delà, parce qu'il y a la tournée avec Patrick Sébastien avant que j'oublie tout ce que je n'ai pas pu dire, jamais pu dire à la télé. On va en parler jusqu'à 20h en votre compagnie. Vous restez avec nous. Installez-vous bien confortablement. Si vous êtes de retour sur le chemin de la maison, on lève le pied de l'accélérateur. On écoute Yazoo très tranquillement. Don't go.